Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, Ambient Memory, l'interview. Une soirée spéciale avec Oleg Spies, qui a présenté il y a quelques semaines à la librairie Le Grand Jeu, à Paris, dans le 20e arrondissement, son ouvrage L'écho des origines, aux éditions Signal Zéro. J'ai pu être présent pour réaliser une captation de sa présentation, ainsi que les différentes questions qui lui ont été posées durant ce moment. Je vous laisse découvrir, dans cette première partie, la présentation de l'ouvrage par l'auteur.
Donc je vais commencer par une question très simple, qui a été un peu le point de départ de ce livre, qui est, il y a 30 000 ans, il y a des artistes qui sont allés dans des grottes obscures pour aller peindre, dans des endroits qui étaient difficiles d'accès. Et pourquoi sont-ils allés là-bas? Et donc ça a été une grande question du départ et une grande question qui pendant des années a trouvé comme seule réponse qu'ils allaient là-bas pour des questions visuelles et que donc les peintures de l'art pariétal n'avaient qu'une dimension visuelle. Et puis dans les années 80, il y a eu des études acoustiques qui ont été menées dans les grottes pariétales. Et ces grottes ces études ont révélé deux choses. La première, c'est que les artistes au paléolithique avaient une acuité auditive exceptionnelle, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à naviguer dans les grottes obscures en émettant des petits sons par la bouche et en entendant les résonances de ces sons. Ils savaient se géolocaliser, ils savaient naviguer par ce qu'on appelle l'écholocation, qui est exactement la même technique employée par les dauphins, par les chauves-souris, par les cachalots, qui arrivent à se déplacer, à naviguer dans l'environnement grâce à l'écoute des résonances. Et donc les artistes paléolithiques, il y a 30 000 ans, arrivaient à faire ça, ce qui est quelque chose que nous avons, pour ainsi dire, complètement perdu. Et ces études ont révélé une deuxième chose, c'est que dans 90% des grottes ornées qui ont été étudiées, que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique du Sud, ils ont découvert que les plus grandes fresques qui ont été peintes ont été peintes sur les parois les plus résonantes de ces grottes. C'est-à-dire que les parois sur lesquelles les artistes paléolithiques peignaient n'étaient pas choisies au hasard, mais pour une dimension sonore. Et donc c'est à partir de ces études qu'est née l'hypothèse que l'art pariétal avait une véritable dimension sonore et pas simplement visuelle, et que donc les grottes n'étaient pas simplement des endroits pour peindre et voir, mais également des lieux pour écouter. Et certains spécialistes pensent même que les grottes ornées du Paléolithique étaient de véritables sanctuaires sonores. Et effectivement, les grottes ont une particularité, une spécificité acoustique surprenante. C'est-à-dire que quand vous émettez un son dans une grotte, le son va être transformé, il va se diffracter, il va se prolonger. Et donc, au-delà du son que l'on émet dans la grotte elle-même va devenir co-créatrice, co-compositrice de ce que l'on va pouvoir entendre. C'est-à-dire que le lieu en lui-même est le diffuseur et en diffusant le son, il devient co-compositeur du son. Et donc ces cavités, elles jouent effectivement un rôle extrêmement actif dans ce que l'on entend. Donc c'est ce que j'ai personnellement expérimenté lors d'une immersion dans l'une de ces grottes. Et donc autour de moi, il y avait les résonances des gouttelettes, des ruissellements d'eau. Et en fait, les résonances de ces sons créaient une musique assez hypnotique, assez lente. Et c'était véritablement irréel. Et en fait, j'ai fait un geste très très simple. Alors ce son, on l'a tous entendu, mais en réalité, personne ne l'a entendu de la même manière. Vous ne l'avez pas perçu de la même manière selon l'endroit où vous êtes dans cette pièce, selon le positionnement de votre corps, puisque l'oreille droite et l'oreille gauche n'entendent pas de la même manière. Et votre attention d'écoute au moment où j'ai claqué des doigts, a également contribué largement à comment vous avez perçu ce son. Donc, en réalité, j'ai fait un son, mais ce son n'a pas été identique pour tout le monde. Il a été différent. Chacun l'a perçu à sa manière. Et c'est peut-être ça, finalement, une expérience sonore. C'est-à-dire, ce n'est pas un son identique pour tous, mais plus une relation différente pour chacun. Et cette manière d'aborder l'expérience sonore comme une relation quasi organique, après avoir découvert toutes ces études sur la dimension sonore de l'art pariétal et des grottes ornées, m'a renvoyé à quelque chose que j'ai eu la chance de vivre, c'est-à-dire le milieu des raves dans les années 90. Et c'est là où le trait d'union entre la dimension sonore de l'art pariétal et des raves dans les années 90, c'est là où, dans le livre, je commence à tisser un lien. Parce qu'en réalité, bien que ces deux phénomènes soient séparés par au moins 30 000 ans d'années, ils sont extrêmement similaires et de manière extrêmement simple. C'est-à-dire que vous avez des individus qui se sont rassemblés dans un lieu immersif, que ça soit une grotte ou une friche industrielle, autour d'un univers sonore, que ça soit une percussion primitive, que ça soit un beat techno, et ils y sont rassemblés avec un objectif identique pendant l'instant, le moment d'une célébration, faire communauté, faire société. Et donc, en réalité, 30 000 ans plus tard, on a revécu exactement la même chose. Faire société à travers le son, à travers notre relation organique avec le son. Et donc, c'est ce que j'appelle dans l'ouvrage l'écophonisme. C'est-à-dire, l'écophonisme, c'est une manière d'aborder l'expérience sonore comme une relation, vraiment une synergie entre quatre éléments, c'est-à-dire un lieu dont l'acoustique contribue à diffuser un univers sonore qui appelle à une attention d'écoute des participants à un instant donné. C'est-à-dire que l'expérience sonore est toujours liée à quatre éléments, un lieu, une attention d'écoute, un corps, un instant. Toujours. Alors pourquoi parler d'écophonisme? Ce n'est pas simplement un concept intellectuel, c'est parce que le monde résonne et qu'en réalité nous sommes des habitants sonores, que nous sommes en lien avec un environnement sonore dès la sixième semaine de notre état fœtal et jusqu'à l'instant de notre mort. Donc avant, ça c'est ce que je... C'est ce que mon intuition me dit, c'est que nous sommes des habitants sonores dans le sens où avant même d'être des êtres pensants, nous sommes des êtres vibrants. Donc ce rapprochement assez inattendu entre la dimension sonore de l'art pariétal, des raves, des années 90, et d'ailleurs on retrouve ça aujourd'hui avec les free parties qui sont probablement les véritables descendantes de ce mouvement, sont en réalité une manière d'aborder plus largement notre rapport au son, à l'écoute, aujourd'hui, par rapport à notre environnement sonore, parce que notre environnement sonore n'est donc jamais neutre, et notre environnement sonore aujourd'hui, qui est le reflet toujours de comment fonctionne une société depuis la nuit des temps, notre environnement sonore est extrêmement cacophonique. Et donc, le fait qu'il soit extrêmement cacophonique en dit très long sur l'état de notre société et de notre vivre ensemble. Donc, je pense, et c'est un petit peu pourquoi ce livre est un manifeste pour l'écoute, qu'il est extrêmement important de reprendre en main notre environnement sonore qui est en danger, parce qu'il y a véritablement des enjeux sanitaires. Il y a aujourd'hui, on le sait, des dizaines de milliers de personnes en Europe occidentale qui meurent prématurément à cause de la pollution sonore. Alors, ils ne meurent pas directement à cause du son, mais ils ont des maladies qui vont être aggravées à cause de la pollution sonore. Il y a des enjeux également par rapport à la biodiversité. On en parlait tout à l'heure. Les oiseaux qui doivent changer leur manière de chanter, de changer de fréquence pour se comprendre, pour s'entendre. Il y a également toute l'hypothèse par moment des échouages des cétacés, des échouages massifs parce qu'il y a une pollution sonore au niveau des mers qui fait que eux, se dirigeant et naviguant par écholocation, ils sont complètement paumés et leur radar en quelque sorte interne est complètement paumé. Et il y a un enjeu sociétal qui me paraît pour le coup extrêmement important et même un enjeu civilisationnel, c'est que sans écoute véritable, il n'y a pas de dialogue, et sans dialogue, il n'y a pas de débat, et sans débat, il n'y a pas de démocratie. Voilà. Donc c'est un petit peu tous ces sujets que j'ai abordés à travers ce livre. Alors bien sûr, c'est un voyage, là j'ai essayé de vous tracer un peu la trame, mais évidemment c'est un livre qui, justement par rapport à l'écoute, va déployer pas mal tout ce qui nous vient de l'écoute active telle que déployée par les bouddhistes, les effets du silence sur le cerveau, puisque des études ont montré que le cerveau perçoit le silence au même titre qu'un son, c'est-à-dire que le silence est perçu par notre cerveau à un niveau acoustique. Évidemment, au niveau des raves et de l'art pariétal, la notion de transcollective, du chamanisme, le rôle du corps dans la perception du son. Voilà, donc j'ai fait un certain nombre de détours et j'ai voulu et j'ai écrit ce livre pour qu'il soit facile à lire, très clairement, et qu'il soit une véritable odyssée sonore que je partage avec vous. Voilà.
Ambient Memory.
Pour cette seconde partie, j'ai pu recueillir les différentes questions posées durant cette soirée de présentation du livre « L'écho des origines » que je vous laisse découvrir. Est-ce qu'un son peut déranger, comme par exemple une sirène de police ?
L'une des personnes qui a écrit l'une des postfaces est une archéologue du patrimoine sonore du CNRS qui a eu une phrase très simple et très courte qui, je pense, va répondre à votre question. C'est que le son est une information. Je pense que... Oui, mais vous avez dit, en fait, c'est pour déranger. Non. En fait, je pense que la sirène d'un pompier ou d'une ambulance ne sont pas là pour vous déranger. Ils sont là pour vous informer. Les informer qu'il va se passer quelque chose, qu'ils doivent passer, qu'il faut faire attention, etc. Donc, il est informé qu'il y a une urgence. Il est informé qu'il y a une urgence. Ça ne veut pas dire que l'on ne va pas être dérangé, évidemment. Mais arriver à percevoir le son, même s'il nous a fait peur, même s'il nous a agressé, et ça c'est extrêmement subjectif, il est agressif, il nous dérange, mais plutôt que de le voir comme une agressivité, on va dire, nulle et non avenue, de se dire, en fait, ce son qui m'a agressé m'a informé d'une situation, d'un seul coup, notre perception du son change en disant, j'ai été agressé, mais j'ai été mis au courant de quelque chose. Voilà. C'est en fait, il s'agit de changer de logiciel dans le mode de perception des sons. Ça ne veut pas dire que le son, et je serai le premier à détester ce son-là, mais le fait de changer mon logiciel sur comment je vais le percevoir et de le percevoir comme une information avant de le percevoir comme une nuisance. Et justement, peut-être que par rapport à cela, si l'on arrivait à retrouver ou à se reconnecter à une véritable écoute, peut-être que ce qui serait formidable, c'est que si on arrive à ça, peut-être que justement les sirènes des pompiers, des ambulances seront baissées de X décibels parce que ça n'aura plus besoin d'être aussi fort. Peut-être. C'est le problème de la saturation. Et c'est vrai au niveau visuel, c'est-à-dire que quand on se balade en ville et qu'il y a une espèce de saturation visuelle, l'effet sur certaines personnes, c'est qu'on ne voit plus rien.
Quelle différence entre les sons urbains et la nature, entre un bruit d'orage et celui d'une sirène de police ?
Je dirais que ça illustre cette subjectivité par rapport à comment nous percevons les sons. Et c'est au-delà du volume. C'est au-delà du volume. C'est que derrière le tonnerre, il va y avoir une forme même de magie qui opère. Voilà, c'est vraiment une illustration de la subjectivité que nous avons par rapport au son, au-delà du volume, et qu'on peut trouver un son assourdissant beau et un son moins assourdissant horrible. Et il n'y a pas de règle par rapport à ça. Enfin, je dirais, c'est là où nous sommes tous extrêmement différents, mais c'est là où, encore une fois, le fait de reprendre conscience de notre capacité d'écoute nous permet... Un, d'entendre, d'écouter les choses différemment et surtout d'être moins bruyants les uns les autres aussi, individuellement et collectivement, et donc de retrouver une forme d'apaisement sonore dans notre vie quotidienne, ce qui nous rendra tous beaucoup mieux, tant au niveau de notre santé, au niveau de la biodiversité, qu'au niveau sociétal, dans le fait de pouvoir communiquer les uns avec les autres et même de s'entendre soi-même. On peut, démultiplier les exemples. Et encore une fois, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Moi, mon objectif, c'était de montrer, en faisant le lien entre la dimension sonore de l'art pariétal et au mouvement techno, où ça paraît complètement inattendu comme rapprochement. Et l'idée était de montrer que depuis la nuit des temps, nous avons un rapport quasiment génétique, que nous avons au plus profond de nous-mêmes un lien intrinsèque avec notre environnement sonore qui nous permet, un, quand on se réunit ensemble à travers la musique ou même autour d'un feu, en entendant que le son crépitait, c'est on se retrouve ensemble autour d'un environnement sonore dans un lieu particulier pour refaire communauté, refaire société. Donc, depuis la nuit des temps. Et qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons besoin de nous reconnecter à cela pour reprendre notre environnement sonore en main, qui est en danger, au même titre que le climat. Il y a des enjeux climatiques, là pour le coup tout le monde est au courant, mais il y a des enjeux sonores qui sont beaucoup moins médiatisés, dont on n'entend pour ainsi dire jamais parler, et qui me semblent au moins tout aussi importants.
A-t-on en mémoire des sons quand on est fœtus ? Ce fœtus a-t-il des réactions ?
On est en contact avec l'environnement sonore dès la sixième semaine de notre état fœtal jusqu'à l'instant de notre mort. Donc effectivement, on est en contact avec l'environnement sonore très tôt, avant même que l'on pense, effectivement, dès notre état fœtal. Donc effectivement, notre relation au son est quelque chose qui est ancré en nous. J'ai employé le mot génétique pour vraiment que c'est pour juste dire que c'est au plus profond de nous-mêmes. Et le son a toujours été, alors aussi bien au paléolithique que dans toutes les tribus primitives dans le monde entier, que dans les raves, en fait, le son a toujours était un langage avant le langage pour se sentir connecté avec l'invisible, avec l'indicible. Et ça, c'est quelque chose qui transpire, qui est un continuum de l'humanité dans toutes les cultures. C'est transhistorique, c'est transculturel. Donc effectivement, nous avons ce lien au son et donc plus globalement à notre environnement sonore qui est intrinsèque, qui est extrêmement puissant et quelque part dont nous avons perdu conscience. Et c'est un petit peu tout ça le sujet, de reprendre conscience de cette importance qui nous constitue au plus profond et, j'irais, de le reprendre en main dans le cadre de notre vie de tous les jours et de notre vivre ensemble.
Peut-on réapprendre à écouter, par exemple, en s'imaginant dans une cathédrale silencieuse.
Mais c'est David Lynch qui disait que vraiment pour prendre possession d'un lieu, il faut écouter sa musique. C'est-à-dire qu'en allant en pleine nuit à Notre-Dame, tu ne vas pas entendre des chants grégoriens, mais tu vas entendre vraisemblablement le craquement de poutres qui ont des centaines d'années, enfin plus récentes maintenant. Et c'est là où reprendre le temps, donc l'écophonisme appelle aussi à ralentir, pour réapprendre à écouter et effectivement aller dans des lieux et écouter ce qu'ils ont à nous dire à travers, non pas les sons que nous on va y faire, mais les sons qu'ils vont générer eux-mêmes, naturellement, qui font partie de leur histoire. Et c'est justement Mylène Pardoin, donc, qui est archéologue du patrimoine sonore, dont le travail est d'arriver à recréer des paysages sonores historique et du passé, non pas en faisant du sound design, non pas en essayant d'émuler des sons du passé, mais à travers des témoignages, à travers des objets, d'arriver à recréer un paysage sonore tel qu'il a été, et je crois qu'elle a réussi à recréer un paysage sonore même d'il y a environ 1000 ou 1500 ans, parce que chaque lieu a une musique, une musicalité, et que c'est à nous de réapprendre à l'écouter, effectivement. C'est presque de la gymnastique. C'est effectivement aller dans une église, au-delà des croyances, et simplement écouter ce qui s'y passe. Les résonances d'un passant vont avoir dans telle ou telle église, ou dans telle ou telle grotte, ou tel hangar, une unicité, parce que chaque lieu a un ADN acoustique, unique, au même titre qu'on se ressemble tous, mais on a tous un code génétique différent. Donc au niveau des lieux, c'est exactement la même chose. Et donc chaque lieu a un environnement sonore unique, une histoire sonore et sa musicalité unique à laquelle on peut se connecter, ne serait-ce que par l'écoute. Je ne parle même pas de choses spirituelles ou mystiques. Hein. Je parle de... Et ensuite... ces expériences-là, d'arriver à les reproduire, je dirais, dans notre vie du quotidien, chez soi tout seul, la télé qui fonctionne alors que personne ne la regarde, enfin, le micro-ondes qui fait bip, enfin, je veux dire, on est surchargé, surtout pour des personnes qui vivent en ville, c'est en permanence, quoi, sans parler des notifications des téléphones, etc. Et donc d'arriver finalement à arrêter d'être dans des automatismes où on entend sans plus écouter, et de reprendre conscience, essayer de reprendre conscience de chaque son qui rythme notre vie. Voilà. Mais je crois que écouter est notre premier geste d'humanité, et écouter, c'est faire quelque chose. Michel qui est là, ça me fait rebondir à la postface qu'il a faite, qui est justement notre rapport au temps. Est-ce que le temps existe? Est-ce qu'il n'existe pas? C'est quoi? Etc. Et donc même les scientifiques ne sont pas d'accord. Écouter et le son est peut-être une trace du temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où un son est généré, le temps où on va l'entendre et le temps où le son va se terminer, c'est une véritable temporalité. Complètement invisible, puisque le son est complètement immatériel. Et donc peut-être que le son est une manière pour nous d'expérimenter la temporalité.
Thank you.
qu'est-ce que l'hippocampe dans le cerveau ? Est-il essentiel pour l'écoute des sons ?
Alors l'hippocampe, c'est une partie du cerveau qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, alors, il y a pas mal de choses, justement d'études en neurosciences dans le bouquin par rapport à l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la seule zone de neurogénèse dans notre cerveau, c'est-à-dire la seule zone qui recrée des neurones. Qui fabrique des neurones en permanence. Et c'est une zone extrêmement importante parce que c'est la zone de l'apprentissage et de la mémoire. Et la pollution sonore, notamment on s'en est rendu compte, enfin pas moi, mais des scientifiques, notamment au niveau des enfants, que la pollution sonore et l'exposition à trop de stimuli sonores ont tendance à perturber la neurogénèse dans l'hippocampe et donc posent des problèmes au niveau des enfants par rapport à l'apprentissage. Voilà, donc ça serait une manière, on va dire, assez concrète de montrer les répercussions que peut avoir notre environnement sonore quand il est extrêmement pollué. Notre cerveau perçoit les sons même que nos oreilles ne peuvent pas percevoir. C'est-à-dire que nos oreilles peuvent percevoir les basses jusqu'à environ 20 Hz et les aigus jusqu'à environ 20 000 Hz. Mais en fait, le spectre sonore va bien au-delà. Et étant donné que nous vivons dans un monde où il y a un réseau électrique énorme, sans parler d'Internet, etc., en réalité, nous vivons dans un bain fréquentiel permanent jour et nuit qui fait que notre cerveau n'est jamais au repos.
Est-ce que l'oreille s'adapte au son en fonction des lieux ?
L'oreille humaine est faite pour avoir sa plus grande sensibilité à l'intervalle de fréquence qui correspond à la voix humaine. C'est-à-dire, en réalité, les hauts médiums, c'est-à-dire la voix humaine, on va dire de 400 Hz à 2000, 3000 Hz. Donc, en réalité, les sons extrêmement aigus ne sont pas les plus dérangeants. Les plus dérangeants sont les sons dans l'intervalle de fréquence qui correspondent globalement à la voix humaine. Et c'est pour ça que parfois, il y a des personnes qui ont des voix qui sont juste insupportable et extrêmement fatigante. Non, mais on l'a tous vécu. Comme on peut avoir des personnes qui ont une voix extrêmement reposante. Et on peut avoir des personnes extrêmement reposantes, des voix extrêmement reposantes et des personnes qui ont des voix qui vont même générer un stress. C'est très subjectif. Après, il y a un autre phénomène, c'est que notre rapport au son est intimement lié à ce que l'on voit au moment où on entend. Donc, je peux vous faire des expériences. Par exemple, j'enregistre certains sons, comme par exemple des craquements d'arbres. Le craquement d'un arbre, ça n'a rien de très joli. C'est très mécanique, c'est très froid. Ce son-là, je vous le fais écouter devant une forêt primaire majestueuse au moment du coucher de soleil. Vous pouvez le trouver peut-être très beau. Je vous le mets dans un autre cadre post-industriel, etc., vous allez peut-être le trouver assez effrayant. Mais c'est le contexte visuel, c'est là où, quelque part, notre perception et l'expérience sonore est une relation à l'instant entre le lieu et ce qu'on va y voir, tout un contexte en réalité.
Pourquoi certains musiciens ferment les yeux en jouant ?
Justement pour se libérer de l'aspect visuel et accroître leur capacité d'écoute. Et c'est aussi pour ça que les personnes aveugles, en général, ont une acuité auditive bien au-delà des personnes voyantes. Et d'ailleurs, les personnes aveugles sont des personnes qui utilisent encore une forme d'écholocation comme nos ancêtres du Paléolithique, où pour arriver à se repérer dans une pièce, prendre conscience de leur espace, vont faire des clics-clics avec leur langue, et en fonction des résonances qu'ils perçoivent, ils arrivent à percevoir. Et ça, c'est une capacité qu'on a tous, mais qu'on a désappris. Et c'est ce qu'on retrouve dans le milieu, ça me fait rebondir sur ça, c'est qu'il y a... Il y a beaucoup de sociologues qui ont écrit là-dessus ce qu'on appelle la notion de communitas. Et c'est ce qu'on retrouvait dans le milieu des raves dans les années 90. C'est-à-dire que le fait de se rassembler dans des lieux que l'on se réappropriait, au même titre que d'ailleurs les artistes paléolithiques se sont appropriés des grottes dont ils ont fait des cathédrales souterraines. Dans les années 90, on s'est réapproprié des lieux, comme les hangars qui étaient à l'abandon, dans un univers très peu de lumière, autour d'un univers sonore très binaire. Et on sait que, les musiques binaires créent ce que l'on appelle un phénomène qui s'appelle l'entraînement rythmique, c'est-à-dire que ça crée une synchronisation de tous les participants, synchronisation physique, mais également cérébrale. Et le phénomène que cela crée, au-delà de la notion de transcollectif, c'est que ça crée donc cette notion de communita, c'est-à-dire que l'on se refait société au-delà de... il n'y a plus de... on vient de quel CSP, on vient d'où, t'es de quelle couleur, t'es de quel sexe. Il n'y a plus de ça. C'est on se réunit, on refait société, on refait communauté. Donc tu enlèves l'aspect visuel. En réalité, voilà, on est tous réunis dans un bain sonore, que ce soit dans une grotte ou dans un hangar, et on fait communauté et société de cette manière-là. Et je pense que c'est ça qu'il est important de retrouver, en reprenant en main notre environnement sonore, que l'on arrive à travers ça à changer notre manière de vivre ensemble, notre vivre ensemble, notre démocratie libérale. Et donc, alors effectivement, c'est extrêmement utopique, mais c'est un chemin proposé.
Radio Graphite.
L'émission touche à sa fin. J'espère que cela vous a plu et vous incitera à acheter l'ouvrage « L'écho des origines » de Oleg Spies aux éditions Signal Zéro. Le lien pour commander est disponible sur les réseaux sociaux d'Ambient Memory. Vous avez pu écouter, pour agrémenter cette présentation, les morceaux suivants que vous pouvez également trouver sur le Bandcamp de Oleg. Extrait de l'album Brave New World, Pharaoh Day Out, Two-Legged Clarinet, de l'album du même nom. Extrait de l'album Brave New World, L'Ostrosphère. Le lien Bandcamp également disponible sur les réseaux sociaux d'Ambient Memory. De plus, tentez de gagner l'ouvrage L'écho des origines en participant au jeu concours dès demain, mardi. Bonne chance! Je vous donne, quant à moi, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao!
Ambient Memory.